Bonjour. Alors, Blaise.
Bah oui. Bonjour.
Et moi, je suis Thierry Keller. Donc, on s'occupe de la rédaction donc de Uzbek Erika, qui est donc cette revue. Revue, entre nous, on n'est jamais totalement d'accord sur le terme à employer. Le terme officiel est MOOC, donc magazine et book. Mais on trouve que c'est un peu pédant. Mais en fait, on est un MOOC. On est une revue, un magazine, un journal qui mélange... Peut-être tout le monde connaît Uzbek Erika, non? Alors, je vais revenir un peu à la genèse. Parce que c'est un magazine, d'après le terme un peu à la mode, hybride. Uzbek Erika, à l'origine, sont donc les personnages des lettres persanes de Montesquieu. Et alors, ce qui est amusant, c'est que au début du XVIIIe siècle, Montesquieu avait imaginé donc deux petits personnages venant de Perse. À l'époque, la Perse, c'était vraiment aussi lointain que pour nous le futur, c'est-à-dire une sorte de no man's land, une hypothèse philosophique. Il imaginait que Uzbek Erika venait en France, parcourait notre pays et voyait notre monde et notre société d'un œil très étonné, d'un œil neuf. C'est pour ça que la revue s'appelle Uzbek Erika. Et c'est à la fois le concept de la revue et en même temps, c'est, pour ceux qui donc, ont déjà feuilleté le magazine, c'est l'objet de la bande dessinée, en fait, hein, qui coupe la revue en deux, entre la partie présent et la partie future. On a imaginé que Uzbek Erika vivait dans un futur très lointain qu'on n'a pas daté. Et que dans ce futur, une sorte de hacker, alors pas un Julian Assange, mais un hacker méchant, nihiliste, avait fait sauter l'ordinateur central qui contenait la mémoire de l'humanité. Et comme dans un futur très lointain, il n'y aura plus de livres, puisque tout aura été numérisé, on imagine, ça c'est le point de départ, que l'humanité devient amnésique. Elle ne sait plus d'où elle vient. Elle maîtrise la technologie, elle maîtrise la science, mais elle ne sait pas, elle ne connaît pas son histoire. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que la civilisation peut continuer à avancer si on est totalement amnésique? Et c'est un débat qui est un débat qui traverse beaucoup la science-fiction. C'est le débat sur la mémoire qu'on voit, par exemple, dans Le Meilleur des Mondes de Huxley, avec cette grande société d'enfants qui oublient complètement d'où ils viennent, et pour cause. Et, en revanche, Uzbek Erika maîtrise la technologie du voyage dans le temps, et, autant d'Uzbek Erika, on maîtrise cette technologie, et donc Uzbek, le vieux sage, et son jeune disciple Erika viennent chez nous. Ils arrivent en France en 2010, 2011 maintenant, et ils s'étonnent sur notre monde. Alors, donc on a imaginé les aventures d'Uzbek Erika, un peu comme les aventures de Tintin à l'ère contemporaine. Mais en même temps, évidemment, c'est un prétexte pour parler de notre monde. Pourquoi avoir parlé de... comment essayer de regarder notre monde d'un œil neuf? D'abord, est-ce que c'est possible? C'est hyper difficile, pour être honnête. D'un point de vue journalistique, on est tous, autant qu'on est, je crois, journalistes extrêmement influencés, matricés, voire matraqués par nos propres confrères et par les préjugés qu'on a, par les autocensures qu'on se met nous-mêmes dans les consciences. Et pourtant, on essaye de, à travers cette revue, alors, de raconter le présent et d'explorer le futur avec cette totale absence de préjugés qui caractérise en 1721 Uzbek Erika quand il débarque en France. Alors, ça n'empêche pas qu'Uzbek Erika, les vrais de Montesquieu, ont leurs propres préjugés. Par exemple, pour ceux qui se souviennent un petit peu de l'aide persane, Uzbek est riche, il a un harem, les femmes de son harem se rebellent. Bon, donc... il n'est pas non plus complètement vierge de toute conscience. Nous, on a aussi inventé un futur pour permettre de s'étonner sur notre présent. Évidemment, On a inventé un monde quasi parfait, une sorte de d'utopie presque réalisée. Malheureusement, bon, chacun sait qu'une utopie réalisée elle déborde vite vers la dictature. Donc on s'est arrêté juste à temps. C'est un monde qu'on voudrait, disons, idéal, avec toutes les exceptions qu'on peut mettre dans ce terme. Bref, en tout cas, il débarque aujourd'hui, et maintenant je reviens sur le fond de la revue. Ils s'étonnent, et nous étonnons avec eux, et nous essayons de comprendre comment est-ce possible que le monde dans lequel nous vivons n'a absolument rien à voir avec le monde dans lequel nous sommes nés, et sans doute aucun rapport non plus avec le monde dans lequel nous finirons nos jours, si un jour nous les finissons, car nous avons un premier dossier sur l'immortalité, et vous savez que beaucoup de gens planchent sur la question. Alors, malheureusement, je ne crois pas que ce sera encore possible de nos jours, quoique nous prononçons assez sérieusement contre l'immortalité dans le premier numéro. Un grand débat de société. Donc, ces révolutions qui sont à l'œuvre aujourd'hui, on le met sur la couverture, géopolitique, bon bah ça, on n'a pas besoin de faire un dessin aujourd'hui, technologique, du point de vue de l'environnement, du point de vue des mœurs, du point de vue politique, on est dans un monde sans dessus-dessous où, pour faire bref, les grandes idéologies qui irriguaient le monde jusqu'au début du XXIe siècle ont volé en éclats et où ce qu'on appelle souvent entre nous la grande désacralisation, c'est-à-dire la manière dont les grandes icônes vacillent les unes après les autres, nous pose question et pose question sur la façon d'entrer dans ce nouveau monde en essayant de respecter des principes qui nous sont chers. Donc c'est pas non plus un hasard, la référence à Montesquieu, la référence aux Lumières. Autrement dit, est-il possible de connaître le progrès philosophique de façon concomitante au progrès technologique? Est-ce que le nouvel être humain qui est en train de voir le jour, les manipulations génétiques, les extraordinaires progrès scientifiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, sont-ils un renoncement à ce qu'est l'être humain, ou bien au contraire nous amène-t-il vers une nouvelle émancipation humaine? Et donc à travers des questions qui sont souvent extrêmement pratiques et extrêmement parfois même triviales, on essaie de se poser toutes ces questions. Bref, on essaye avec des outils, je dirais, intellectuels datant des Lumières, de comprendre le monde dans lequel nous basculons. Alors, évidemment, quand on parle de basculement, on parle de la peur et on parle des grandes angoisses qui, je crois, chacun de nous nous attrape régulièrement. Bon, bah, évidemment, les guerres, les pollutions, la chimie, les nanotechnologies, les particules fines qu'on avale tous les jours, mais aussi évidemment la peur du déclassement, de cette espèce de décadence du monde occidental qui est très à la mode aussi chez nos confrères en ce moment, et mais aussi dans toutes les têtes, je pense. Et on essaie de prendre à bras le corps ces questions-là, en essayant d'apporter une réponse rationnelle. Il est de bon ton de décrire une sorte de course à l'abîme, un terme assez utilisé dans les milieux intellectuels, ou même, prenons des blockbusters américains comme 2012 ou comme Le Jour d'après, la peur, la pulsion de mort fait vivre. Par exemple, vous savez que le mot le plus prononcé dans les médias aujourd'hui est le mot mort. Et que c'est Michel Serres, qui est notre premier grand témoin dans le numéro 1, qui explique ça dans une tribune récente dans Le Monde, qui explique que un enfant de 12 ans, entre l'âge de 0 et l'âge de 12 ans, un enfant a vu 20 000 meurtres. Bon, pas de quoi rassurer de jeunes parents ou ne serait-ce que des responsables politiques qui cherchent, disons, à conduire bon an mal an des peuples vers l'avenir. Voilà, donc nous, le présupposé d'Uzbek Erika, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de traiter de ces grandes questions, de ces grandes questions qui font peur, en essayant, comme la peur du noir quand on est petit, de mettre de la lumière pour mieux comprendre vers quoi nous allons. Alors, et raconter le présent, c'est à peu près facile. Explorer le futur, c'est très difficile. On aime bien, nous, se présenter comme des prospectivistes. Bon, c'est très très difficile, voire impossible, voire amoral ou faux de vouloir prédire l'avenir. À la limite, on pourrait penser que, ou affirmer que seuls quelques météorologues le soir à la télévision peuvent prédire le lendemain ou le surlendemain. Je crois que les récents événements dans le monde arabe montrent bien que c'est une vraie gageure de prédire l'avenir. Alors, nous, quand on a fait, par exemple, ensuite je vais laisser Blaise Mao entrer peut-être plus dans le détail de nos formats et comment on a imaginé parler de l'avenir et de parler de ce basculement. Par exemple, on s'est dit, on fait un premier numéro d'Uzbek Erika, on a un titre complètement imprononçable. Il faut être soit prof de français, soit être en première et passer le bac français pour se souvenir vaguement que les lettres persanes, ça existe. Quelle est la principale source d'étonnement, voire, là encore un mot à la mode, d'indignation, si jamais on débarque du futur ou si jamais des extraterrestres viennent nous voir aujourd'hui en 2010-2011 dans le monde? La moitié des habitants de cette planète vivent sous le joug d'une dictature. C'est quand même ça qui est incroyable. Et donc on a titré Les dictateurs ont la belle vie parce qu'on s'est dit vraiment, bon oui, la pollution évidemment, évidemment les crises, évidemment les guerres, évidemment le chômage, bon. Mais, je veux dire, on parle de cette bonne ville de Bordeaux, de cette bonne vieille Europe, de notre monde occidental qui n'a pas connu de guerre depuis 60 ans et qui, quoi qu'on en dise, est encore un régime de liberté. Hein. On oublie de dire que la moitié de nos quoi frères terriens, comment doit-on les appeler, Saint-Exupéry disait Terre des Hommes, la moitié de nos concitoyens planétaires ne peuvent pas s'exprimer. Et ça nous paraissait être la première des incongruités contemporaines, c'est-à-dire cette absence de liberté. Et on a voulu, au risque de passer à l'époque, c'était en juin dernier, hein, pour d'affreux néoconservateurs américains, rappeler l'évidence, c'est que en Iran, en Chine, en Tunisie, et on a même été jusqu'à quelques provocations type le Venezuela, mais ça c'est... Ça, c'est vraiment parce que... on ne vit pas librement. Voilà. Donc, très difficile de prédire l'avenir, et pourtant, on essaye. Évidemment, c'est beaucoup plus ludique, et c'est un exercice intellectuel de prédire l'avenir. On n'a jamais prétendu le faire réellement. On aimerait bien, pourtant, que les esclaves soient nos... Enfin, les robots soient nos esclaves demain. Ils le sont déjà presque, mais je vais laisser à Blaise le soin peut-être de rentrer plus dans le détail de la manière dont on parle des choses, des sujets qu'on traite, et puis surtout vous écouter, parce que pour nous qui sommes, surtout lui, un jeune journaliste, et une jeune rédaction d'un groupe, d'une bande indépendante de quelques groupes de presse que ce soit, c'est vraiment extrêmement intéressant pour nous de rencontrer, de confronter un lectorat qui nous échappe complètement. On ne connaît pas du tout le lecteur type d'Uzbek Erika. On sait qu'on a énormément de passion, évidemment, pour faire ce métier. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui nous intéressent, qu'on a envie de traiter. Mais c'est vraiment surtout intéressant de vous écouter et d'échanger. On n'a pas du tout la science infuse. Et je crois que, justement, on est à une époque où avoir la science infuse est quelque chose de totalement dépassé. Voilà, donc Blaise, peut-être tu peux...
Ouais, bah, je vais peut-être revenir un mot sur le futur et sur comment on parle du futur, parce qu'effectivement, Thierry l'a dit, c'est, y a tout ce grand raoût catastrophiste dans les médias. Nous, on est aussi, il faut le dire, la jeunesse d'Ouzbek Erika, elle vient aussi d'une frustration de niveau de l'offre de la presse. On est des gros consommateurs de presse chez Ouzbek, de presse papier, de presse électronique... de presse, bon, mais on est voilà, on n'a jamais trouvé vraiment un titre qui nous permettait voilà de se projeter un petit peu dans l'avenir. Il y a la presse scientifique le fait, mais sous un angle, alors voilà, vous voyez Science et Vie, Science et Avenir, donc c'est souvent très bon, mais ça s'adresse quand même à un public très ciblé. Il y a Futurible, qui est une revue de prospective pure, mais assez austère, et là aussi qui s'adresse pas du tout à un grand public. Et éventuellement, alors après, oui, Courrier International, ou voilà, il y a certains journaux quand même qui essaient de jouer ce rôle-là, qui essaient de se projeter. Mais nous, on était un peu frustrés, et c'est pour ça aussi qu'on a eu l'envie de lancer notre journal, notre revue. Et effectivement, après, donc Ouzbek, c'est donc comment on parle du futur. Donc ça, c'est une question qu'on aborde notamment avec Jacques Attali, bon, qui est un des rares. Futurologue auto-proclamé et fier de l'être, que les médias vont souvent interroger. Nous, on est allé l'interroger sur comment on parle du futur, justement, ce qu'on trouvait ça intéressant pour notre démarche. Et en fait, on s'est rendu compte, donc on pourrait écrire un journal au futur, mais ça a assez peu d'intérêt. Mais comme dit Jean d'Ormesson dans l'interview du deuxième numéro, demain, il faudra continuer à se laver les dents et à faire des hypothèses. On est obligé de faire des hypothèses, on est obligé de se projeter dans l'avenir. On a besoin de ça, sinon, surtout aujourd'hui, époque de crise millénariste et atmosphère catastrophiste, on a vraiment besoin voilà, de rationaliser, de retrouver un petit peu de sens. Donc, comment on parle du futur ? Eh ben, on parle du futur en fait en revenant dans le passé, on parle du futur en racontant le présent et en jouant sans cesse avec le temps. Toutes les rubriques, alors c'est pas vraiment des rubriques d'ailleurs, pour ceux qui sont un peu familiers d'Ouzbek Erika. C'est pas un journal où il y a une rubrique culture, une rubrique société, une rubrique politique, ça nous ennuie un petit peu. Tous les hebdos le font, tous les journaux le font, tous les sites internet d'actu le font. On a des tétières, on a des temps dans notre journal qui sont tous pensés en rapport avec le temps. On a l'Uchronie, par exemple, qui est un temps où, donc plus autour de la fiction. Donc l'Uchronie, pour ceux qui ne sont pas très familiers, c'est voilà, il y a un moment de l'histoire et on imagine que ce moment de l'histoire se passe autrement. Et on réécrit l'histoire à partir de ce point de bascule. On a une rubrique qui s'appelle « C'était mieux avant », avec un point d'interrogation, où on interroge en fait sans cesse le progrès, où on interroge un peu ces révolutions en cours. Et je prends un exemple. Par exemple, dans le numéro 3, on a fait un sujet qui s'appelle « Manger bio est-il réac ?» qui est né vraiment alors, de discussions. On s'est dit « Mais alors, ok, donc le bio, tous les bobos mangent bio, y a un boom du marché bio. Donc c'est très affilié à la gauche, très affilié à un mode de vie urbain, mais tous ces gens qui font un retour à la terre, ou tous ces gens qui ont... en fait, le retour à la terre, quand on regarde un peu, quand on a cherché un peu, on s'est rendu compte que c'était en fait... c'était le programme de Pétain à un moment dans les années 40. On a été un peu interpellé, un peu troublé par ce constat. Donc voilà. Et typiquement, on est parti de là pour écrire un article et pour interroger l'idéologie qu'il y a derrière. Voilà. Qu'est-ce qui guide, qu'est-ce qui motive tel ou tel consommateur ? Pourquoi il y a cette frénésie pour le retour à la terre ? Et c'est typiquement un sujet Ouzbek Erika, en fait. On est un peu sur le terrain. Mais on est surtout dans le monde des idées, dans le monde de la pensée, et moi je crois qu'il y a une excellente offre de presse dans le reportage pur, et je trouvais qu'il y avait vraiment un créneau qui manquait sur ce monde des idées. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait la revue. Mais voilà, tout le journal est pensé comme ça. On a une autre rubrique qui s'appelle « La brève histoire ». Donc là, pareil, c'est Stephen Hawking. C'est pas nous qui l'avons inventé, hein. Stephen Hawking. Attali l'a fait avec l'avenir. Best-seller, pour le coup, qui a su convaincre tous les publics. Où on interroge, voilà, passé, présent et avenir d'un objet ou d'un concept. Donc on a fait le papier toilette, on a fait l'automobile dans le dernier, on a fait les jeux vidéo, on a fait la torture, qui a toujours existé et qui existera toujours, malheureusement. Voilà, en fait, on s'interdit aucun sujet. On n'est pas un journal culturel, on n'est pas un journal de société ou une revue de sociologie. On assume voilà, ce côté hybride et on joue sans cesse avec le temps. Et donc, par exemple, dans notre dernier numéro, on fait un grand dossier sur grand dossier futur, puisqu'on a à chaque fois donc deux grands dossiers, un dossier présent, un dossier futur, sur l'alimentation, sur comment on mangera dans 30, dans 50 ans. Alors là aussi, ça fait écho à plein de choses qu'on voit sur le prix des denrées alimentaires, sur les émeutes de la faim, sur comment nourrir 9 milliards d'êtres humains. C'est des questions qu'on croise beaucoup dans les médias. Et nous, on a fait un vrai travail de prospective là-dessus, mais on est parti d'une idée qu'on voit un peu en filigrane, mais pas trop, qui est celle de l'absurdité. On a fait un constat d'absurdité. En fait, ce qui se passe, c'est que on a à peu près 30% de la nourriture qui est mise en rayon dans les supermarchés anglais qui finit à la poubelle du supermarché ou des consommateurs. Donc, quand on tombe sur un chiffre comme ça, on s'interroge. On a, je crois, déjà près de 400 millions d'obèses et 1 milliard de personnes, soit affamées, soit mal nourries, mal nutries. Je ne sais pas quel est le terme exact. On a, je ne sais pas si vous connaissez la fameuse histoire que raconte souvent Pierre Rabhi, le penseur des croissants qu'on était aussi allé interviewer dans le numéro 3. C'est l'histoire des camions de tomates. Il y a un camion de tomates hollandais qui allait vendre ses tomates en Espagne et qui a percuté dans le tunnel de Fourvière à Lyon un camion de tomates espagnol qui allait vendre ses tomates en Hollande. Donc voilà. Alors au début, en fait, on se marre quand on lit ça. Puis quand on repense à ça, on se dit, mais en fait, c'est absurde. Comment on en arrive là ? Enfin, voilà. Et nous, à chaque fois, on essaie de partir de choses, de chiffres, on essaie de repérer des signaux qui parlent de notre monde aujourd'hui et qui sont... D'ailleurs, on a une rubrique qui s'appelle « Signal faible » aussi, où on essaie de voir un peu cette tendance de demain et de partir de ce constat pour aller interroger vraiment et faire un travail de prospective. Alors, on a été chercher un agronome qui nous explique que l'industrie agroalimentaire refuse, donc ça fait écho à notre papier sur manger bio-éthylérique, refuse totalement de parler de la technologie dans l'alimentation, alors même que toute notre alimentation est éminemment technologique, de la machine Nespresso au four à micro-ondes, bon, en passant par les OGM et autres. Et fait tout son marketing sur bah voilà, les yaourts tradition, les recettes grand-mère, les bons plats nature. Donc c'est très intéressant. Et on a un peu exploré ce lien indéfectible entre l'homme et la nature. Est-ce qu'il la façon la plus évidente dont s'exprime ce lien, c'est évidemment par l'alimentation. Et on a été voir un petit peu ce qui nous attend pour demain. Insectes, plancton, toutes sortes d'aliments un peu étonnants, mais qui vont a priori débarquer dans nos assiettes, parce qu'on va manger beaucoup moins de viande. Voilà, donc ça, par exemple, c'est le dossier. Et on s'est associé à un chef cuisinier. On voulait aussi trouver une forme originale. Alors ça aussi, Ouzbek Erika, donc on n'a pas trop parlé pour l'instant. C'est une belle revue, c'est un bel objet. Nous, on a fait ce pari du bel objet. Tout à l'heure, on disait avec Thierry en coulisses, on se marrait parce qu'on se souvenait qu'on est sorti le même jour que l'iPad. En juin 2010. Et on pourrait se dire, mais c'est quand même bizarre de lancer une revue de 200 pages, papier, en 2010, crise de la presse, nanana, nanana. Bon, la crise de la presse, enfin, nous, on est à peu près persuadés, ou en tout cas convaincus, on va dire, que c'est d'abord une crise de l'offre, pas une crise de la demande. L'offre est, à ma vie, pas assez satisfaisante. Et on a fait ce pari du bel objet, de l'effet un peu collection aussi. Les gens achètent Ouzbek Erika aussi pour la beauté de l'objet. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec beaucoup d'illustrateurs, notamment anglo-saxons, excellents. Et donc, par exemple, donc, je reviens à ce dossier. Là, on a travaillé avec un chef cuisinier, en fait, pour pas avoir les éternels dossiers où vous voyez des petits Africains dans des champs de terre, voilà, ou alors des rizières en Indonésie, ou enfin ce que vous pouvez trouver partout. Et on s'est dit, bah voilà, on va imaginer des recettes du futur. On va essayer de demander à un chef. On lui a demandé, voilà, écris-nous, imagine pour nous 5 recettes du futur. À quoi ça va ressembler ? En partant de constats. Alors là, on est plus dans l'univers de la gastronomie, mais c'était une manière, je trouve, intéressante, originale, d'illustrer un propos qui, pour le coup, est beaucoup plus ancré dans les problématiques d'alimentation, de faim dans le monde. Ça donne voilà, ce genre de choses. Donc là, c'est une tarte de framboise pastèque à la crème de pommes de terre mangue. Bon, y a d'autres choses assez étonnantes, mais je vous laisserai découvrir ça pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. En tout cas, voilà comment nous, on fonctionne, comment on essaie de repérer des signaux et d'étirer ça et de trouver un fil rouge et de concevoir un dossier à partir de ça. En fait, notre vraie obsession, c'est le progrès. On l'a dit un peu tout à l'heure. Dans tous les sujets d'Ouzbek Erika, on interroge le progrès. Voilà. Que ce soit dans nos pages présentes, dans nos pages futures. C'est un peu notre obsession. Il y a notre temps assez identitaire, assez essentiel de la revue qui est l'utopie, donc qui est une rubrique qui fait écho à l'Uchronie, qui est contre donc l'Uchronie à la fin du cahier présent et l'utopie qui est à la fin du cahier futur, où là on est sur des utopies, des grandes causes qui nous tiennent à cœur, où on va aller plus sur un terrain plus radical, plus engagé. On a traité de la question des États-Unis d'Europe, où on évalue vraiment le potentiel de mise en œuvre d'une idée un peu folle, ou qui paraît pas faisable. Les États-Unis d'Europe, la fermeture des prisons, on a fait tout un dossier là-dessus. On a fait la question des genres, la fin des genres. Là, dans le dernier, on est sur la ville idéale. On a fait appel au dessinateur de BD François Skuyten et à l'architecte Paul Chemetov. On a confronté leur point de vue. Voilà, l'idée étant vraiment de... Est-ce qu'on peut mettre en œuvre ces hypothèses qui paraissent farfelues ou qui relèvent de la SF ou qui relèvent de... Nous, on essaie vraiment de rendre... d'évaluer si ça pourra un jour se mettre en œuvre. Voilà, ça, c'est un peu notre idée derrière chaque sujet. Là, on a parlé de la télépathie, on a parlé de la question de la langue universelle. Donc, c'est souvent des sujets, en fait, qui circulent hein, dans la presse, qui circulent dans l'actualité, mais qui sont traités un peu bizarrement, qui sont pas étirés de manière vraiment prospective. Et c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire du mieux possible.
Merci à vous. Bah, merci. Hein.